Whoa. On passe au vert.
Et nous inaugurons notre nouvelle chronique. On passe au vert la lumière, oui, mais c'est surtout pour nous allumer tous, allumer surtout notre conscience écologique. Vous savez que je suis sur le bord de devenir éco-anxieuse avec tout ce qu'on dit sur ce qu'il faudrait qu'on fasse tous collectivement pour sauver la planète. Évidemment, il y a des grands pays qui doivent absolument faire leur bout. Et moi, je suis convaincue que ça passe aussi par une action individuelle. Et c'est pour ça que, oui, j'ai signé le pacte il y a plusieurs mois de cette campagne menée, entre autres, par Dominique Champagne pour nous encourager à faire chacun des gestes qui, collectivement, vont nous rapporter, vont nous permettre de vivre un peu mieux sur une planète qui pourra durer longtemps. Puis là, vous avez vu, là, il y a la jeune Greta Thunberg qui était à New York, qui est arrivée à New York hier pour le sommet mondial sur le climat. C'est vrai qu'il y a des bouleversements climatiques. Puis regardez, là, les gens qui s'en vont en Floride là, en fin de semaine ou qui y sont en ce moment, on prévoit un ouragan de force 3. On est complètement dépassé par ce qui se passe. Alors, je pense qu'il faut faire notre bout pour l'environnement. Quelqu'un qui l'a compris bien avant tout le monde, c'est mon invitée, Mélissa Delafontaine, qui a publié le livre « Tendre vers le zéro déchet ». Elle est conférencière, elle est consultante. Merci, Mélissa, d'être là.
Bon matin.
Je voulais qu'on parle, entre autres, de notre culpabilité et de la culpabilité en général qu'on nous transmet dès que, par exemple, je viens de parler de l'avion. Tu peux pas être un bon citoyen écologique si tu prends l'avion. Il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt. On dirait que pour être écolo, il faut être parfait, ce qui est à peu près impossible parce qu'on l'est pas personne.
Non, exactement, ouais.
Parlons un peu de ça dans cette ère de changement climatique. Comment encourager les gens sans les faire sentir coupables?
Ben, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai l'impression des fois que mon travail, c'est de la psycho.
Oui, exact.
Parce que faut que je reste sur l'équilibre très, très mince entre réussir à expliquer aux gens pour qu'ils comprennent, parce que si les gens comprennent pas pourquoi c'est important de faire ces changements-là, ben ultimement, ils vont les faire soit temporairement ou pas du tout, puis ça sera pas pérenne dans le temps, donc ça sert à rien. Donc, réussir à leur expliquer puis qu'ils comprennent, sans justement tendre vers la culpabilité, puis que là, ça leur donne juste le goût de se mettre en boule dans leur salon, puis ouvrir la télé, puis plus jamais rien faire, finalement.
C'est ça.
Fait que c'est un mince équilibre, puis quand j'ai écrit mon livre, je me rappelle, je m'étais mis des objectifs, là, je les avais réellement écrits sur un bout de papier, puis un de mes objectifs, c'était ne pas faire culpabiliser les gens, puis je suis super contente parce que quand les gens me reviennent après avoir lu mon livre, ils me disent exactement ça, c'est ça fait pas culpabiliser, c'est le fun. Fait que j'ai trouvé mes voies de passage, en fait, pour réussir à passer le message sans faire culpabiliser.
Ouais. En même temps, toi, tu le fais pas, mais il y a bien des gens, tu sais, quand tu racontes qu'est-ce que tu as fait cet été, tu as pris l'avion, les gens font « Ah, c'est pas très écologique. »
Mais après, je pense qu'il faut qu'on soit quand même conscient qu'effectivement, prendre l'avion, c'est pas très écologique. Puis la façon que je l'ai, par exemple, amené dans mon livre, parce que je trouve que c'est important quand même de respecter le rythme de transition vers le zéro déchet de chaque personne, c'est que j'ai mis des échelles de nuances. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Puis là, c'est sûr que c'est un peu imagé, là, c'est plus complexe que ça dans la vie, mais c'est comme si pour chaque chose qu'on fait, par exemple, il y avait la meilleure solution environnementale puis la pire. Puis souvent, c'est là que la culpabilité aussi embarque, c'est que les gens se disent, je peux soit faire la meilleure ou la pire, c'est un ou l'autre, je suis soit parfait ou de la merde. Puis ils ne voient pas entre les deux. Puis entre les deux, il y a des solutions. Fait que tu sais, quand on parle d'avion, par exemple, ça m'arrive de prendre l'avion. Fait que je ne suis pas super à l'aise avec ça, évidemment, vu mes valeurs. Fait que j'ai trouvé mon équilibre à moi qui est confortable. C'est-à-dire que moi, prendre l'avion tous les ans, je suis absolument pas confortable, mais j'aime ça partir une fois de temps en temps en voyage puis déconnecter. Donc, le rythme que je me suis trouvé, c'est que je pars une fois aux 3 ans et quand je pars pour la peine. Pour moi, une semaine, prendre l'avion, c'est pas assez. Je vais partir au moins 3 semaines. En même temps, on va se le dire, partir 3 semaines en vacances, ça fait du bien, là. Fait que c'est aussi pour ma santé mentale, mais je vais partir moins souvent, plus longtemps pour amortir un peu l'impact. Puis là, on pourrait aussi parler de ça, mais je vais aussi payer mes crédits carbone. Donc, je vais essayer de faire au mieux avec ce que j'ai en étant ça, c'est super important. Quand même consciente que j'ai un impact environnemental en posant ce geste-là, mais en tombant pas justement dans la culpabilité ultime.
Surtout qu'on nous le propose. Est-ce qu'il y a des chiffres sur justement la réponse des gens au point de carbone quand on prend l'avion? Parce que ils nous calculent une taxe là, sur le carbone dans notre billet d'avion, dans notre frais d'avion, mais il y a aussi l'espèce de supplément que tu peux donner par toi-même. Là, j'ai remarqué, il y a des compagnies aériennes. Dernièrement, j'ai vu Air France le fait. Il y en a peut-être d'autres aussi qui le font, qui te suggèrent de donner un montant à ton choix. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 5 euros, 20 euros. Puis, tu as plusieurs projets. Ils te proposent planter un arbre en Namibie. Tu sais, des projets comme ça qui viennent amener de l'eau dans tel endroit sur la planète. Fait que tu dis, OK, je peux...
Mais puis pour moi, ça, il y a toujours un danger là, dans le milieu environnemental. Quand on parle de crédit carbone, évidemment, ça fait pas consensus, là, parce que faut pas que ça devienne une façon, justement, de se déculpabiliser puis de dire, hey, je vais prendre l'avion 6 fois par année, mais c'est pas
mais
grave.
Mais j'ai aidé à planter les arbres
exactement.
En Afrique, c'est ça.
Ouais. Le but, c'est, pour moi, c'est pour ça que j'aime autant le zéro déchet, c'est que l'objectif, à la base, c'est toujours de réduire notre consommation. Puis après, ce qui nous reste à consommer, bien, on fait au mieux. Fait que c'est pour ça que quand je vais prendre l'avion, je vais avoir réduit ma consommation, mais ce qui me reste, je vais payer mes crédits carbone. Fait que c'est vraiment, moi, l'angle que je préfère prendre finalement. Mais quand même, je dois dire, les crédits carbone, ça m'avait sensibilisée. La première fois que je les ai payés, je me rappelle, j'étais allée à San Francisco. J'avais une voiture à l'époque, fait que je payais depuis un certain temps quand même mes crédits carbone sur ma voiture à chaque année. Et je me suis rendu compte que mon billet aller-retour à San Francisco, ça m'avait coûté aussi cher en crédit carbone que ma voiture dans l'année. Fait que tu réalises qu'en peu de temps, quand tu prends l'avion, tu brûles entre guillemets beaucoup de carbone. T'sais que ça a un impact vraiment plus grand que ce que j'avais pensé. Puis ça, c'est seulement pour mon siège à moi, c'est pas pour l'avion en entier, tu sais. Fait que, encore une fois, le but, c'est pas de culpabiliser, mais je pense que collectivement, c'est hyper important qu'on comprenne et qu'on sache l'impact que ça a, ces choix-là, finalement.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à faire ce pas-là, là, tu sais, de dire, OK, je prends pas l'avion parce que je veux pas abîmer la planète. On a des croûtes à manger avant d'en arriver là.
Va falloir qu'on mange nos croûtes, je pense. Il va falloir qu'on réduise notre consommation quand même.
Ouais. Mm-hmm. Mais c'est le pétrole, dans le fond, notre grande source de culpabilité. Parce que...
Oui, mais ça peut même aller plus large que ça. Puis ça, un autre truc que j'aime beaucoup jaser, c'est justement c'est le cycle de vie. Puis encore une fois, là, dans la façon d'expliquer pour qu'on comprenne, n'importe quel objet qu'on utilise, par exemple, va nécessiter des ressources puis d'énergie pour se rendre jusqu'à nous. Fait que, t'sais, l'avion, on pourrait dire, ah, c'est juste le gaz qui est brûlé, mais c'est la construction de l'avion aussi qui est très, très énergivore, qui prend beaucoup de ressources à en disposer aussi après. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étages de pollution à chaque choix qu'on fait. C'est pour ça que si je ramène à simplifier, c'est toujours la réduction de la consommation qui est la meilleure option finalement.
Ouais. Mais tu sais, en même temps, nous, à Montréal puis au Québec, on a une industrie aéronautique tellement forte. Il y a des dizaines d'emplois qui sont rattachés à ça. Comment tu peux dire à ces travailleurs-là, regarde, on prendra plus l'avion, on n'en construira plus des avions non plus. Il y a tout ça, là. C'est pas évident, je trouve, de faire ce genre de choix, là.
Cette question-là, je l'aime beaucoup parce que je me rappelle quand j'ai commencé à faire des conférences, là, 3 ans à peu près, à la fin de mes conférences, la question qui revenait, mettons, le plus souvent, c'était, mais qu'est-ce que tu utilises comme brosse à dents? Fait qu'on était beaucoup dans le petit concret quotidien zéro déchet. Et là, la question qui me revient le plus souvent, c'est, oui, mais là, madame, si tout le monde fait comme vous, l'économie va crasher. Puis je trouve la question vraiment intéressante, mais là, c'est plus juste moi qui ai la réponse, mais c'est ça vers quoi je pense qu'on doit aller comme société à se poser comme question, c'est est-ce que notre structure fonctionne? Est-ce que la croissance économique fonctionne? Puis la réponse au niveau environnemental, c'est non. Fait qu'il faut qu'on ait un questionnement à ce niveau-là, à savoir comment on va faire les choses différemment. Parce qu'effectivement, le but, c'est pas juste d'abandonner les gens qui aient plus d'emploi puis que ça n'aille pas bien, tu comprends? Non. Mais il faut qu'on ait une réflexion, puis peut-être que un début de réflexion que j'amènerais, c'est justement si on consomme moins, ben on pourrait travailler moins. Puis moi, je rêve vraiment de travailler moins puis d'avoir plus de temps pour moi et donc de consommer moins aussi. Mmh. Mais ça, c'est vraiment, c'est plus large que le zéro déchet, sauf que mon objectif avec le zéro déchet, c'est vraiment d'amener cette réflexion-là aussi. Là.
Est-ce que tu penses que ça peut se faire sur une base commune, générale? Est-ce qu'on peut arriver à penser ça, à mettre ça en pratique éventuellement? Évidemment, ce ne sera pas demain matin, ça risque d'être...
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut? J'ai pas la réponse. Je ne suis pas de veine, malheureusement.
J'ai
mais
l'impression
pas
que c'est un vœu pieux, ça.
Ben,
tu vois?
C'est que... Je ne sais pas à quel point je peux dire ça à la radio. Là, on n'aura pas le choix. C'est un non-choix. Ouais. La décroissance, pour moi, c'est un non-choix. C'est-à-dire que soit on le fait par nous-mêmes, ce choix-là, puis moi, c'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire, même si autour de moi, c'est pas nécessairement ça qui se passe, parce que le jour où on n'aura plus le choix de le faire, je vais être prête. Je vais être capable d'avoir un autre mode de vie puis de le gérer différemment aussi. Fait que c'est soit qu'on le choisit, soit que ça va nous être imposé finalement. Là.
Ouais. Bon, là, on parle beaucoup de la jeune Greta Thunberg. Qu'est-ce que t'en penses de ce qu'elle fait?
Moi, j'admire beaucoup cette femme-là. Là.
Cette jeune fille, écoute,
jeune fille,
à 16
mais
ans.
Mais je trouve que c'est une femme. Je suis désolée, elle assume des responsabilités
oui,
de femme.
Fait, ouais.
Fait que non, moi, je suis très, très impressionnée par ce qu'elle fait, là, définitivement. Puis j'aime son discours qui est excessivement pragmatique. Elle s'en tient aux faits. C'est juste ça. C'est très, très simple.
Moi, avec mon air cynique, des fois, tu sais, je me dis...
Vas-y.
Mais c'est un peu comme Malala, tu sais, qu'on a beaucoup trimballé partout à l'époque. Puis c'est toujours, je trouve toujours ça délicat de prendre des jeunes et d'en faire des porte-voix. Je me demande toujours qui est derrière.
Je peux me tromper, je la connais
qui
pas,
la manipule,
j'ai pas jasé avec
qui,
elle, mais moi, je ne crois pas qu'elle est manipulée. Pas du tout, mais pas du tout. Assez informée, puis... Bon, là, je peux pas vraiment aller là, mais elle s'est informée, puis c'est des faits qu'elle ramène, en fait. Là. J'ai même envie de dire, tu sais, on parle du fait qu'elle est autiste, mais c'est une force qu'elle a, en fait, de se rendre compte des choses que plusieurs ne veulent juste pas voir, finalement.
Mm.
Fait que pour moi, il n'y a pas de manipulation. Elle s'est rendue compte de ça elle-même. Puis c'est pas parce que c'est une enfant qu'elle n'est pas capable de le faire.
Non,
des fois, on sous-estime beaucoup les enfants là-dessus parce qu'ils ont un regard beaucoup plus limpide sur la vie. Puis je le vois, même moi, quand je donne des ateliers, par exemple, dans les écoles, je me fais poser des questions qui sont très, très comme terre à terre et pragmatiques que des adultes ne me poseraient jamais, finalement. Fait que je peux absolument me tromper parce que je la connais pas, mais moi, je ne ressens aucune manipulation derrière elle, mais pas du tout.
Mais tant mieux, parce que sinon, ça serait dommage.
Ça serait très dommage, ça, je suis d'accord avec toi.
Effectivement, très dommage. Ouais. On va s'arrêter ici, on va donner l'occasion à nos auditeurs de répondre sur cet enjeu de la culpabilité. Je voulais qu'on parle de ça en particulier, ben, je trouve que chaque fois que quelqu'un dit « Ah, ben moi, je fais des gestes écolo », il se fait dire « Ouais, mais t'as-tu une auto? » Bon, ben c'est ça. Tu sais, c'est comme si tout de suite, on te ferme... Mm-hmm. On ferme la discussion, puis on t'empêche, dans le fond, de vivre ton geste, ta transition écologique. Il y a comme toujours cette espèce d'arrêt jugé, l'autre, beaucoup, par ces... Des fois, tu peux faire des choix, mais des fois, tu n'as pas le choix de prendre ta voiture. Surtout nous, au Québec, on est confrontés à plein de différentes choses. Dites-moi comment vous le vivez, ça. Est-ce que vous vous sentez coupable de faire certaines choses? Avez-vous remarqué que quand vous dites « Ah, ben moi, j'aimerais ça être un peu plus conscient, puis j'essaye de faire mon effort écologique », qu'est-ce que vous aviez comme réponse de votre entourage? 514-790-9850. Et ça en ferait partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. On est avec Mélissa de La Fontaine. Elle a écrit le livre « Tendre vers le zéro déchet ». C'est une conférencière, une consultante qui nous encourage beaucoup à poser des gestes plus écologiques en tous les cas. Puis là, ce matin, on parle en particulier de cette tendance qu'on a à faire culpabiliser les gens qui prennent l'avion, qui ont une voiture. Évidemment, Mélissa nous dit l'important, c'est d'être conscient que quand tu fais ça, quand tu prends l'avion, quand tu es dans ton auto, ben c'est peut-être pas super pour l'environnement. C'est un peu ça ton message. Donc, comment tu peux compenser? Il y a la compensation. Mais comment répondre à cette culpabilité? Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Est-ce que vous vous sentez coupable, vous?
Oui. Non, parce que moi, j'ai trois points rapidement.
Oui.
Moi, je me perçois que... Non, moi, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser. Parce que, de toute façon, l'important, c'est d'être conscient, comme elle dit. Il faut être conscient puis savoir ce qu'on fait. Donc, d'être capable d'arriver à faire... C'est comme un cheminement dans la vie. Donc, on est rendu là. Moi, ce que je réalise, c'est que c'est beaucoup à la jeunesse de faire ce pas-là. Parce que c'est une autre génération. Moi, je trouve que la génération de mes grands-parents, ils ont fait quoi? Ils ont découvert. Il y a eu la télé, l'auto, tout. Il y a eu toute une industrialisation. L'autre génération a fait quoi? Ils ont protéger le français, CLSC, tout ça. Et on ne peut pas leur demander à ces gens-là de faire ça. Moi, je travaille dans des CLSC et à domicile, et je vois des gens là, qui accumulent les sacs de couches de pipi parce qu'ils ne sont même pas capables d'aller la porter au bout du corridor. Fait qu'ils ont des petites maisons, des petits appartements, un petit 1,5. Ils ne peuvent pas avoir un contenant de compost, un contenant de ci, un contenant de ça. Puis dans leur tête, là, ils ne voient même pas la différence. Fait que ça, je trouve ça. Puis qui fait leur commission, c'est pas eux. Mm. Fait que moi, je pense pas que ça leur appartient à leur génération. C'est chaque génération doit laisser sa place. L'informatique, ça appartient pas à la génération des 90. Puis, tu sais, beaucoup ont adopté ça, mais pas nécessairement. Fait qu'on est un peu perdu là-dedans. Fait qu'on essaie de participer du mieux qu'on peut avec, tandis que la génération d'aujourd'hui, ben, c'est elle à mettre le pas de plus en plus fort et de plus en plus solide pour que nous, ben, plus on va en entendre parler, plus les gens vont plus porter attention. Puis, à un moment donné, non, il ne faut pas se culpabiliser. Il faut aller avec ce qu'on peut. C'est ça qui est difficile à comprendre, je pense. Faut pas. Puis, de toute façon, je remarque ça, c'est juste rapidement, ils ont retour au vrac aussi, tu sais, parce que, bon, l'écologie, les emballages et tout. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans les produits naturels, puis il y a 50 ans, on avait du vrac pour les enlever parce que le monde toussait dedans, le monde était humain, le monde avait touché à l'argent. Parce que puis là, on revient avec le vrac. Ben notre génération, elle n'achète pas du vrac. Je m'excuse, mais je sais c'est quoi. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui est difficile. Y a des
là, c'est même plus loin que ça. Là. C'est amène tes contenants. Là. C'est le principe d'amener tes contenants. Merci, Nathalie. On a Chantal avec nous. Bonjour, Chantal.
Bonjour.
Vous sentez-vous coupable des fois, vous, par rapport à ce que vous faites ou vous faites pas? Puis aussi, quand vous discutez de ce sujet-là, j'imagine que vous le faites comme nous tous avec vos amis, vos proches. Qu'est-ce qui ressort des discussions? Est-ce que la culpabilité vient vite?
Ben, c'est sûr que la culpabilité est toujours là parce qu'on n'en fait jamais assez, selon moi, en tout cas.
Ouais.
Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que moi, je fais partie des gens qui voyagent beaucoup, malheureusement, avec en avion. Et je me rends compte que partout où je vais, au niveau de... C'est pas très fort au niveau de la récupération et tout ça.
Ah, ouais.
Je suis une joueuse de golf, puis je vais vous dire que même dans les terrains de golf ici au Québec, ça fait vraiment dur, hein.
Ouais.
Parce que il y a pas de poubelle de recyclage sur les trous. Il y a des poubelles simplement. Puis les gens en général emmènent des bouteilles d'eau parce qu'on n'a pas vraiment le choix, parce qu'il n'y a pas de distribution d'eau sur le terrain. Donc on emmène nos bouteilles d'eau. Et quand on veut les jeter, ben on les jette dans les poubelles ou sinon on les garde dans notre sac.
Ah, mais là, c'est terrains de golf, vous avez tellement raison. Les terrains de golf, écoutez, au Québec, il y a encore des terrains de golf qui utilisent des pesticides, qui utilisent des engrais chimiques, qui se ramassent dans les cours d'eau, qui se ramassent dans les lacs. Ça se déverse là. C'est tout le problème des algues bleues, là, qui sont vertes, en fait, qui se ramassent dans bien des lacs du Québec, là. Souvent, là, c'est ce qui vient des terres agricoles, puis beaucoup de terrains de golf. Et on dirait qu'on n'arrive pas à avoir une législation là-dessus. On a Stéphane avec nous. Bonjour, Stéphane.
Bonjour. Moi, j'aimerais ça rajouter une couche de prise ouais. de conscience et de culpabilité.
Ouais.
Saviez-vous qu'en 2019, tout le système Internet maintenant a dépassé en production de GES l'aviation civile mondiale?
Ah ouais. Ça crée beaucoup de chaleur, hein, tout
les
ça.
Les Facebook,
ouais.
Instagram, les Google, tout ce que vous faites sur Internet, là.
Eh oui, c'est un bon point. Mélissa, là-dessus, c'est vrai, ça?
Oui, oui, ben c'est mon prochain combat.
C'est vrai?
Mais moi, je trouve ça difficile.
Puis
parce
à
que...
cause de quoi? Explique aux gens comment ça se fait là, que
ben,
ça crée autant de...
Il y a plein de facteurs. Il y a le facteur des électroniques, fait que le téléphone en tant que tel, l'ordinateur et tout. Produire de l'électronique, c'est hyper polluant et s'en départir aussi. Puis en plus, les gens, de façon générale, s'en débarrassent beaucoup trop vite. Et la deuxième chose, c'est
on
tout...
On n'a pas le choix, ils ne marchent pas au bout d'un an.
Ben au bout d'un an, moi j'ai gardé mes cellulaires à peu près 6 ans. J'ai les ai fait réparer, j'ai eu de la volonté, j'ai arrêté. Tu sais, quand je vois qu'ils commencent à ralentir,
ouais.
j'arrête de faire des mises à jour. Fait que ça lui donne une petite prolongation de vie parce que les mises à jour à un moment donné finissent par le ralentir, puis c'est ça qui fait qu'il lag puis qu'il fonctionne plus.
Mais en même temps, si tu fais pas tes mises à jour, t'as plus de risques d'hameçonnage.
Tout à fait. Fait que c'est de trouver l'équilibre. C'est pas une science exacte que je te dis, là, c'est un feeling. C'est un feeling à un certain moment où j'arrête de les faire. Fait que ça, c'est un aspect, mais il y a l'aspect aussi, justement, de tout ce qui est Internet. Quand on parle du cloud, là, c'est pas dans l'univers, là, c'est pas dans le ciel nulle part. C'est des gros ordinateurs qui produisent beaucoup de chaleur, donc ils prennent beaucoup d'électricité pour les refroidir aussi.
C'est immense.
Donc, quand on est sur Internet, nous, on a l'impression que ça consomme rien, mais d'aller regarder, par exemple, une vidéo sur YouTube, ça consomme beaucoup d'énergie, finalement. Fait qu'encore une fois, le but, c'est pas de complètement culpabiliser, mais c'est encore la même règle, hein? Réduire notre consommation. C'est tout le temps ça. Fait que par rapport à ça, moi, c'est mon premier défi personnel, là, d'essayer de consommer, par exemple, moins d'Internet. Puis même pour ma santé mentale, là, on parle pas juste d'environnement, pas être toujours plugué sur les Internet, sur mon cell, sur mon ordi. Donc, j'ai pas de télévision chez moi. J'ai même pas, avant, j'avais un gros ordinateur que je regardais à la télévision dessus. Il est sorti de chez moi. Fait que j'essaie de ramener mon appartement dans quelque chose qui était moins technologique. Fait que je réduis ma consommation. Puis pour vrai, ça m'a calmé. Fait que c'est même bon pour ma santé mentale. Mais oui, effectivement,
Tu sais que c'est de plus en plus documenté, là.
Ah, c'est sûr.
On veut parler d'ailleurs. On va faire une émission sur le 5G, là, qui s'en vient, là.
Oui.
C'est, je veux dire, on va tous être malades tout à l'heure. Moi, moi, je suis anxieuse de ça, là, parce que je pense que notre corps ressent, prend toutes ces... Moi, je suis convaincue de ça, qu'on vit sur un... On est entouré, on est notre corps, il est dans de l'air, là, il est dans quelque chose. On le voit pas, là, mais c'est toutes des...
C'est de la matière, pareil.
C'est de la matière, oui.
Ouais.
Tu disais le nuage, il est pas dans l'air, là.
Mais c'est ça, ça existe pour
si on avait une meilleure compréhension de la chimie, de la physique, de ces phénomènes-là, tu sais, les protons, les molécules, la matière, on comprendrait peut-être de quelle façon notre corps est influencé par ça. Mais c'est un très bon point, ça, de se déconnecter un peu. De toute façon, on est en train de se faire passer un sapin par toutes les GAFAM du monde. Tout à l'heure, la planète va changer de nom, va s'appeler Google, là, si on fait pas attention. Non, mais c'est vrai.
Oui, mais je...
Fait que, tu sais, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On peut se déconnecter, on n'est pas obligé de tout passer notre journée sur Facebook non plus.
Non, c'est ça, exact.
Il y a une grande réflexion à faire
mais
de ce
côté-là. Mais c'est ça qui est le fun avec le zéro déchet aussi, c'est que ça apporte d'autres réflexions plus larges.
Exactement. On a Jocelyn avec nous. Bonjour, Jocelyn.
Bonjour, Isabelle, ça va bien?
Oui, ça va très bien. La culpabilité, en sentez-vous des fois?
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle.
OK.
OK. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, si vous laissez le temps m'expliquer.
Allez-y.
C'est que physiquement, c'est impossible de ralentir l'effet de climat. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que la science aujourd'hui, là, je lisais un article justement dans le journal récemment, puis on a créé un arbre, je ne me souviens plus quel pays, il dépollue 25 fois plus qu'un arbre naturel, un arbre artificiel. Bon, on envisage de mettre ça sur le long des autoroutes. Puis deuxièmement, si on mettrait 10 % des dépenses militaires sur le climat, moi je suis convaincu d'ici une dizaine d'années, on aurait renversé le processus. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus présentement, là, c'est pas nécessairement le climat, mais c'est la pollution. Vous en parliez tantôt, les insecticides, les pesticides, etc. c'est beaucoup plus dangereux pour l'humain, si on veut, que le climat actuellement, à mon avis. Mm. Einstein disait aussi, par rapport au climat, l'imagination est plus importante que la connaissance. Aujourd'hui, la science a beaucoup de connaissances, mais on manque d'imagination pour la dépollution. Mm. Mais je répète, si on mettrait 10 % des dépenses militaires sur la recherche pour dépolluer, on réglerait le problème.
Des dépenses militaires mondiales, vous voulez dire? Ou canadiennes?
Mondiales. Mondiales, ouais, on parle là, regardez, de 3, 4 000, 5 000 milliards par année.
Ouais, vous avez vu qu'on vient de voir un G7 là, à Biarritz.
Oui, je sais, on s'entend beaucoup, mais.
Ça jase, puis ça s'entend pas forcément. Ils ont de la misère à s'entendre sur le Brexit en Europe. Donald Trump fait cavalier seul et s'est poigné avec les Chinois. Je veux dire, on est loin d'être dans une communauté planétaire.
Ça paraît bien au niveau de la population, c'est sûr. Mm. Mais il se passe rien.
Puis avant que les États-Unis ou la Chine prennent leurs dépenses militaires et disent on va prendre 10 % de ça. Je veux juste déconstruire un peu votre proposition, là. Vous me permettrez?
Oui, pas de problème.
Parce que, oui, on peut le dire, mais ça arrivera pas, là. Il y a un président aux États-Unis qui est convaincu qu'il n'y en a pas de problème climatique.
Je vais vous donner un exemple concret, Isabelle.
Oui.
Quand on a décidé, Kennedy, d'aller sur la Lune, qu'est-ce qui est arrivé? On a mis 100 % d'énergie pour fabriquer une fusée pour aller sur la Lune. Mm. Je pourrais parler d'autres projets, le projet Manhattan.
Ah, vous, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut le décider. C'est ça, je suis bien d'accord avec vous.
Bien sûr, c'est le gouvernement.
Mais il faut le décider. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'ils ne décideront pas. À moins qu'il se passe quelque chose. Mélissa, je ne sais pas ce que tu en penses de ça, mais
Je suis d'accord que ça prendrait comme une décision. On est comme en temps de guerre, d'une certaine façon. Il faudrait prendre ce genre de décision-là. Mais c'est comme si, pendant la guerre, la menace était claire, concrète et visible. Puis là, ça devient un peu trop de sources différentes. Fait que c'est pas assez concret pour les gens. Donc, dans notre imaginaire, c'est comme si collectivement, on n'était pas capable de prendre cette décision-là. Mais ultimement, on est comme en temps de guerre. Il faudrait qu'on ait le même niveau de réaction actuellement, collectivement, pour réagir au changement climatique.
Oui, il faudrait qu'on perçoive le même ennemi tout exact. Le monde, mais on est tous dans l'intérêt personnel. On est sur une planète où
il est fractionné aussi, parce qu'on parle d'environnement, mais tu sais, comme on dit, par exemple, on peut parler des pesticides, on peut parler du réchauffement climatique, on peut parler des déchets, mais tout ça fait que ça fractionne l'ennemi, puis finalement, on n'est plus capable de voir qu'il y a un ennemi, puis c'est les changements climatiques et tout ce qu'on va vivre, puis qu'il faut qu'on applique plein de solutions aussi. C'est pas une solution, c'est pas juste comme faire des armes et aller se battre, là. Beaucoup plus compliqué que ça. Fait qu'on dirait que ça fait que l'humain réagit pas à ça assez, finalement.
Mmh. Bien, merci beaucoup, Mélissa. On a parlé de la culpabilité aujourd'hui. Sentir coupable de pas en faire assez pour la planète. Et au cours des prochaines semaines, on aura l'occasion d'aller vous suggérer des façons d'en faire un petit peu plus sans se sentir coupable pour notre planète. Merci beaucoup, Mélissa de la Fontaine.
Un grand plaisir.
On s'arrête ici, très courte pause. Tout de suite après, va suivre notre entrevue sans filtre. Mon invité, l'auteur, compositrice, interprète, Laurent Jalbert.